Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans Coémergence. Comment évolue l'agenda africain à la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï? On fait le point dans cette émission et c'est avec notre invité. Il s'agit de Nassim Oulman, il est le directeur en charge de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Avant cela, nous revenons sur cette étude publiée récemment par l'Institut marocain d'intelligence stratégique sur la stratégie économique du Maroc en Afrique et le modèle marocain de co-développement. Hicham Kasraoui, consultant en stratégie, expert à l'IMIS et l'un des co-auteurs de cette étude, répondra à nos questions. Quels sont les principaux sujets de coémergence? Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, l'Institut marocain d'intelligence stratégique, l'IMIS, a récemment publié un policy paper intitulé « Stratégie économique du Maroc en Afrique, le modèle chérifien de co-développement », une étude qui préconise 8 actions concrètes pour projeter les acteurs clés et mieux appréhender l'avenir. Parmi ces actions, il est recommandé de renforcer l'attractivité du royaume comme destination africaine incontournable et de s'ériger en hub de décarbonation de l'industrie en Afrique. Pour en parler, nous avons reçu Hicham Kasraoui, il est consultant en stratégie. Il est expert également à l'IMIS et l'un des co-auteurs de cette étude. Je vous propose d'écouter une partie de notre entretien. Alors, je le disais, l'étude préconise pas mal de choses, mais de façon synthétique, que dit-elle?
Alors, je pense que l'étude propose un cadre d'analyse vraiment 360 qui adresse la stratégie du royaume pour le continent dans toutes ses dimensions et donne les clés à la fois pour les parties prenantes marocaines mais aussi pour l'ensemble des acteurs africains pour profiter de ce contexte à la fois régional et international en pleine reconfiguration afin de saisir les opportunités économiques qui se présentent devant nous aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, un certain nombre de recommandations concrètes ont été proposées pour ces parties prenantes et on pourrait revenir en détail sur certains d'entre eux si vous le souhaitez.
Bien évidemment. Alors, cela dit, avant d'entrer dans ces détails-là, de façon générale, à quoi renvoie aujourd'hui la présence économique du Maroc sur le continent?
Alors, je pense qu'il est d'abord intéressant de marquer que nous traversons un contexte qui est très particulier, à la fois au niveau international et régional. D'une part, depuis 2019-2020, on traverse une série de crises qui se succèdent, mais aussi qui se superposent. Je peux vous parler de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, de la crise de la Covid-19, de la guerre en Ukraine, de la rupture et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur de manière générale. Et ces crises-là mettent sous pression l'ensemble des modèles de développement, y compris le modèle africain. Et dans ce contexte-là, le Maroc a un certain rôle à jouer pour aider à faire émerger un modèle de développement propre à l'Afrique qui est à la fois durable et inclusif. Aujourd'hui, la présence du Maroc est depuis très longtemps, mais en particulier durant les deux dernières décennies, avec sur l'impulsion de Sa Majesté le Roi, c'est très intensifié et très consolidé au niveau du continent, à la fois sur le plan diplomatique, économique, mais surtout humain. Et je pense que les preuves sont débordantes. On peut parler des projets d'infrastructures en Afrique pour lesquels les entreprises marocaines s'engagent pour les réaliser et pour les financer. On peut parler des projets stratégiques autour de l'énergie et notamment le grand projet du gazoduc Nigeria-Maroc qui peut révolutionner, dans le sens réel du terme, les économies de plus d'une douzaine de pays, en plus d'un engagement tout azimut du Maroc pour plaider pour un développement équitable et durable du continent. Je pense que la preuve la plus récente et la plus salutaire date d'il y a 48 heures à peu près, dans la déclaration conjointe du chef de l'État, Sa Majesté le Roi, et de son homologue émirati. On retrouve parmi les objectifs et parmi les projets identifiés, à date, les projets à mener potentiellement avec les pays africains. Et cela démontre que même dans sa stratégie de diversification des alliances économiques et géostratégiques, le Maroc plaît toujours pour la coopération africaine et le développement du continent africain.
Alors, cette étude analyse cette présence sous plusieurs angles, des forces, les faiblesses, entre autres. Justement, quelles sont les forces de la présence marocaine sur le continent ?
Alors, le Maroc peut compter sur un certain nombre d'opérateurs à la fois publics et privés qui sont très forts historiquement en termes de présence sur un certain nombre de pays africains. On parle notamment du secteur bancaire, du secteur des télécoms, du secteur de l'extraction minière, du bâtiment, des travaux publics, mais aussi de l'agriculture et de l'industrie. On peut parler aussi d'un engagement des fonds marocains et des investisseurs marocains dans plusieurs projets prometteurs et stratégiques pour le continent. Et on peut compter aussi sur un échange de flux humains très fort entre le Maroc et le continent qui intensifie ses liens économiques et qui leur donne de la substance vivante, qui est un des puissants moteurs de cette présence marocaine en Afrique.
Dans ce cadre, vous avez dégagé plusieurs pistes pour pérenniser cette stratégie. Vous avez évoqué, par exemple, 8 actions concrètes qui sont préconisées dans votre rapport. Alors, on va y aller point par point. Quelle est, selon vous, la première action la plus urgente ?
Je pense que la première action reste toujours celle centrée autour de l'humain. Il faut que le Maroc, mais aussi l'ensemble des pays africains, proposent des offres de formation qui sont adaptées pour les métiers de l'avenir, pour permettre à la jeunesse africaine d'être prête pour accompagner ce développement du continent. Il y a aussi toute une série de politiques publiques à mettre en œuvre pour valoriser le capital humain qui finalement est la pierre angulaire de ce développement. Et donc, politique sociale, on peut parler de la protection sociale universelle, par exemple, là où le Maroc a réalisé des avancées majeures avec le chantier amorcé par Sa Majesté le Roi et qui est un cas d'école aussi pour plusieurs pays qui souhaitent s'inspirer de ce modèle-là pour avoir un modèle de protection sociale universelle dans leurs pays respectifs. Il y a aussi toutes les politiques de logement, les politiques de migration aussi qui sont très importantes. On a toujours le cas du Maroc avec une politique de migration positive et qui permet de profiter finalement de cette richesse humaine qui reste le premier capital du continent et du Maroc, bien évidemment.
Alors, vous parlez aussi de la nécessité ou de continuer à faire du Maroc un pôle d'attraction des investissements à destination du continent. En un mot, continuer de faire du Royaume un hub des investissements sur le continent.
Je pense que le Maroc a entrepris depuis un certain nombre d'années énormément d'efforts pour créer un climat d'affaires propice et qui a donné ses fruits. On a vu énormément d'investisseurs internationaux faire confiance à l'offre Maroc et s'installer au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a vocation à poursuivre cette stratégie de positionnement sur l'échiquier international comme hub d'investissement, mais aussi comme plateforme africaine d'investissement. Avec la mise en œuvre de l'accord de libre-échange au niveau du continent, toutes les entreprises qui souhaitent se développer dans les marchés africains ont tout à gagner à investir dès aujourd'hui au Maroc. Nous avons déjà un certain nombre d'accords commerciaux qui nous rendent très compétitifs et très intéressants aux yeux des investisseurs pour exporter leurs produits. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui est énorme, qui s'ouvre à nous. Les économistes de la Banque mondiale parlent de 18 millions d'emplois qui seront possibles à créer avec l'avènement de cet accord de libre-échange continental. Nous parlons de 9% de croissance supplémentaire au niveau du continent si on arrive à profiter pleinement de cet accord. Et donc, je pense que c'est une situation qui est très nouvelle, qui regorge d'opportunités et qu'il faut saisir au plus vite pour savoir en profiter.
Cela dit, en termes de perspective, comment voyez-vous dans les années, les décennies à venir, cette présence marocaine sur le continent ?
Je pense que le Maroc aujourd'hui démontre clairement son engagement ferme, irréversible, de poursuivre son intégration continentale et de poursuivre son développement au niveau du continent. Aujourd'hui, c'est à la main des acteurs marocains, à la fois publics mais aussi privés, et j'insiste sur le rôle du secteur privé aussi dans cette aventure, de se positionner sur les secteurs prometteurs, notamment surtout les secteurs d'avenir autour de l'énergie, autour de l'eau, de l'agriculture, du digital et pour ne citer que eux, et de comprendre ces marchés africains, trouver des moyens de s'implanter qui sont à la fois intelligents mais aussi qui sont équitables pour impliquer les acteurs locaux aussi, parce que une des leçons très importantes aussi que le paper met en avant, c'est de ne pas reproduire les schémas postcoloniaux, mais de créer un modèle de co-développement authentique, africain, pour l'Afrique.
Justement, quand on parle de co-développement, on pense aussi au co-investissement qui est d'ailleurs érigé par le patronat marocain comme un des objectifs. Justement, le Maroc investit, mais sentez-vous cette attraction envers les investissements africains? Il est vrai que lors du dernier forum CEO Africa, le gouvernement marocain était présent en force pour faire la promotion justement du modèle marocain et attirer des investisseurs du continent. Mais sentez-vous que réellement, est-ce que les choses bougent dans ce sens?
Alors, je pense que les hommes d'affaires et les investisseurs marocains sont convaincus du principe et du potentiel réel du continent. Et cela dit, il faut être réaliste aussi. Et le capital marocain voit un certain nombre de risques qui se posent sur les marchés africains. Et ces risques-là, il va falloir prendre le temps de les comprendre, prendre le temps de les traiter. Et ces investisseurs ont besoin d'être aussi accompagnés et rassurés pour digérer ces risques et trouver les meilleures manières d'investir au niveau du continent.
Hicham Kasraoui, consultant stratégie, expert à l'IMIS, est l'un des co-auteurs de cette étude. Merci pour tous ces éclairages.
Coémergence, l'invité.
Il s'appelle Nassim Oulman, il est le directeur en charge de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Avec lui, nous allons faire le point sur l'évolution de l'agenda africain à la COP28 qui se poursuit à Dubaï. Bonjour à vous, Nassim Oulman, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar et merci pour cette invitation.
Alors, les enjeux africains de la COP28, on en parle. Comment évolue cet agenda africain à Dubaï, Nassim Oulman, où vous vous trouvez?
Avant de parler de l'évolution, je peut-être rappeler aux auditeurs ce qu'est la COP, hein, c'est l'organe décisionnel suprême, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et on a tous les États qui sont partis à la Convention, qui sont représentés à la COP, et au cours de laquelle ils examinent la mise en œuvre de la Convention, donc qu'est-ce qui a été fait, et tout autre instrument juridique adopté par la COP, et prennent aussi des décisions nécessaires pour promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention, y compris toutes les dispositions institutionnelles et administratives. Donc, l'une des principales tâches qu'on fait à la COP en ce moment à Dubaï consiste à examiner les progrès qui ont été accomplis dans la mise en œuvre des activités convenues, des communications nationales, des inventaires d'émissions soumis par les différentes parties, les pays. Donc, sur la base de ces informations, la COP évalue les effets des mesures prises par les parties et les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif ultime de la Convention et propose, le cas échéant, de nouvelles mesures ou de nouveaux mécanismes. Et à cet égard, l'un des principaux objectifs de cette COP-là 28 est vraiment le bilan, ce qu'on appelle le Global Stake Talk, le bilan ou l'inventaire mondial. Et effectivement, c'est là où les pays africains, entre autres, hein, ont vraiment une position forte sur ce bilan qui disons-le, pas du tout satisfaisant.
Un bilan pas du tout satisfaisant. Alors, donc, j'imagine que ces pays sont en train de pousser très fort pour qu'on prenne en charge leurs préoccupations.
Absolument. Alors, les préoccupations des pays africains. Je vais essayer de les regrouper en quatre ou cinq groupes de préoccupations, hein. Donc, tout d'abord, une des principales préoccupations, mais on va rester très positif avec ce qu'on appelle le loss and damage, donc les pertes et dommages. Je ne sais pas si j'utilise la bonne traduction en français,
Bien
mais
évidemment.
voilà, merci. Ça a été une des avancées de la précédente COP à Sharm el-Cheikh en Égypte, qui était en Afrique, sachant que la précédente était à Marrakech. Donc l'année dernière, on a réussi à prendre cette décision, mettre en œuvre un fonds qui s'appelle le fonds pertes et dommages. Mais ce que nous n'avons pas décidé, et c'est ce qui a été décidé ici, c'est comment l'opérationnaliser et comment l'alimenter. Alors les pays africains souhaiter qu'on atteigne au moins un minimum de 200 millions de dollars pour opérationnaliser ce fonds. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, et là, on remercie le travail de la présidence émiratie qui a vraiment beaucoup poussé pour avoir des annonces fortes. Et lors de cette première semaine, 100 millions de dollars ont été annoncés par les émiratis, ce qui a enclenché une dynamique. Et on a atteint les premiers objectifs de l'alimenter, mais maintenant, il s'agit de l'opérationnaliser, à savoir où va se situer ce fonds. Il a été décidé qu'il sera géré au niveau de la Banque mondiale, mais de manière indépendante, avec un conseil d'administration indépendant qui ne dépend pas forcément de la Banque mondiale. Et tout l'enjeu maintenant va être de définir les modalités d'accès
Alors,
à ce fonds-là.
je pense que c'est une bonne entrée en matière parce que là, vous posez le débat sur l'enjeu financier, la finance climatique dont on parle. On sait tous que c'est difficile de trouver aujourd'hui des fonds capables de répondre aux défis actuels. Que réclament exactement les pays africains au-delà de ces fonds pertes et dommages? On se rappelle des fameux 100 milliards de dollars promis en 2015 à Paris. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore complet. Quelles sont les autres doléances financières des pays africains?
Non, merci Omar, tout à fait. Hein, vous soulignez sûrement le débat le plus complexe des COP et de cette COP aussi en particulier sur le financement. Donc le financement des actions climatiques, c'est la question la plus complexe des COP. L'Afrique, à juste titre, est préoccupée par des transitions justes, notamment dans le domaine de l'énergie, de la finance, de l'agriculture. Et ça, c'est très important, sans compromettre le droit du continent au développement. Donc l'Afrique a un double défi. Il a le défi de l'action climatique, répondre au challenge, au défi du changement climatique, des conséquences du changement climatique, mais il a aussi un défi énorme, qui est celui du développement, compte tenu du retard de développement, mais aussi aux dynamiques démographiques connues par le continent. Donc, mais ce double défi nécessite une adaptation aux effets déjà existants du climat et en permettant, bien sûr, en même temps au continent de combler le fossé énergétique.
Il y a le secteur privé africain et aussi la société civile qui sont mobilisés à Dubaï. Sur ce plan-là, en termes de mobilisation du financement, comment le secteur privé africain peut-il être impliqué et comment peut-il générer ces ressources-là?
Encore vraiment, vous mettez là aussi le doigt sur un point très important, Omar. Si je prends l'exemple de l'énergie, l'accès à l'énergie, sur le continent, on a encore 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc avant de parler de transition énergétique, on parle déjà d'accès à l'énergie. Les besoins de financement pour l'accès à l'énergie, selon les différentes études, sont de l'ordre, je crois, de 1,2 milliard de dollars par an, enfin, des sommes énormes et les États ne peuvent aujourd'hui que financer quelque chose de l'ordre de 12% de ces montants-là. Donc l'essentiel du financement de l'accès à l'énergie et de la transition énergétique doit venir du secteur privé. Comment mobiliser le secteur privé pour cet énorme effort? Alors ça passe par plusieurs mécanismes, il faut innover, et c'est là que les pays africains, au-delà de continuer à mettre la pression pour que les engagements pris à Paris et lors des différentes COP qui ont suivi, soit tenu. Les pays africains doivent aussi innover, doivent notamment être présents au niveau des associations qui préparent la réforme l'architecture financière mondiale.
Alors, ce sera ma dernière question, Nassim Oulman. Je rappelle que vous êtes le directeur en charge de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Alors, on a vu de nombreux grands chantiers lancés sur le continent. Je pense à la fameuse muraille verte qui devait traverser le Sahel. Il y a aussi l'initiative dans le bassin du fleuve Congo. Comment évoluent ces grands projets d'envergure qui sont lancés pour faire face au réchauffement climatique et au changement climatique en Afrique?
C'est vraiment des projets qui sont pertinents. Je vais dire pourquoi. Parce que, aussi bien les grandes murailles vertes, la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à laquelle j'appartiens, aussi porte une autre initiative qui s'appelle la Grande Muraille Bleue, qui se focalise sur l'océan, sur tout l'est du continent africain, comme pilote, mais l'idée est d'entourer le continent avec une muraille bleue pour régénérer nos océans. Beaucoup de choses se passent au niveau local aujourd'hui pour la conservation de la nature, la régénération, mais lorsque vous avez des projets de petite taille, ils n'ont pas. C'est très difficile de montrer leur contribution à l'action climatique. Donc, au travers de ces grandes murailles, ce qu'on essaye d'atteindre, c'est d'agréger, si vous voulez, de faire, et dans le cadre de la Grande Muraille Bleue, c'est de faire un corridor de projets, de fournir un cadre régional qui couvre, lance tout l'Est de l'Afrique dans ce cas-là, et qui va permettre justement d'avoir immédiatement un impact et de démontrer l'impact climatique. Pourquoi c'est très important? Parce que la CEA aujourd'hui, on a en face de nous une finance climatique qui est disponible. De nombreux acteurs, notamment les philanthropes, veulent investir massivement, mais ils ont besoin de projets de très grande taille et qui démontrent leur impact sur le changement climatique. Et c'est en faisant cela justement qu'on mobilise toutes les forces vives qui existent sur le continent, qui sont déjà à l'œuvre, mais qui ont besoin de ces cadres régionaux pour pouvoir accéder à cette finance climatique qui a besoin de projets de grande ampleur.
Il faut donc s'unir pour avoir des projets impactants. Merci à vous, Nassim Oulman. Je rappelle que vous êtes le directeur en charge de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Vous êtes basé à Addis Abeba, mais là, vous vous trouvez à Dubaï où se tient donc la COP28. Bonne suite de travaux à vous et on espère que l'Afrique en sortira avec un agenda qui sera pris en compte. Merci à vous, Nassim.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci.
Destination Éco.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, a organisé une table ronde à Abidjan sur le financement des pôles énergétiques et du programme régional de l'économie numérique. L'objectif est de mobiliser les financements nécessaires pour assurer la mise en œuvre des projets dans ces secteurs hautement stratégiques. Écoutons ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Hippolyte Dié.
Plusieurs ministres issus de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le premier ministre ivoirien, des responsables d'institutions et bien d'autres personnalités ont pris part à cette table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement de la stratégie de développement des pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique. Un accès universel à l'énergie et au numérique pour un développement durable dans l'UEMOA, tel est le thème central de cette rencontre initiée par l'UEMOA en collaboration avec la Banque ouest-africaine de développement. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA.
Les États ont fait beaucoup d'efforts pour augmenter l'offre d'électricité au profit des entreprises pour qu'elles deviennent plus compétitives. L'offre d'électricité au profit des populations pour que leur bien-être soit amélioré. Mais les défis restent encore énormes. L'économie numérique est devenue également indispensable pour permettre à nos sociétés de vivre de façon plus harmonieuse dans tous les domaines. Vous voyez ce qui est possible de faire avec l'économie numérique quand les administrations sont digitalisées.
On dénombre 171 projets dans le secteur énergétique pour un montant global de 15 000 milliards de francs CFA. 71 ayant été déjà financés, l'Union doit mobiliser le montant de 7 700 milliards de francs CFA pour réaliser les 100 autres. Le président de la BOAD a saisi l'occasion pour préciser le rôle majeur que joue son institution auprès de l'UEMOA. Serge Ekoué.
C'est d'organiser
un travail aux côtés des autres bailleurs de fonds, des autres partenaires techniques et financiers, afin de mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires pour le financement des projets, qu'il s'agisse du numérique et de la digitalisation, mais également tous les sujets qui sont relatifs à l'énergie.
Prenant la parole à cette tribune, le Premier ministre ivoirien a indiqué que c'est une fierté pour son pays d'accueillir cette table ronde. Robert Begré-Mambé.
Investir dans le numérique, c'est investir dans l'avenir des jeunes et des femmes, dans la compétitivité de la région sur la scène africaine, notamment avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine.
Les responsables de l'UEMOA entendent mettre tout en œuvre pour relever les défis qui les attendent dans cet espace regroupant 8 pays. À Abidjan, Hippolyte Dié pour Medi 1.
Merci à vous, Hippolyte Dié, correspondant de Medi 1 à Abidjan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medi 1 Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medi 1 et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.